Lucie Malbeau, c'est un plaisir de vous accueillir ici ce soir chez Mola. Vous êtes maîtresse de conférence en histoire médiévale à l'Université de Poitiers, grande spécialiste du monde scandinave sur lequel vous publiez régulièrement. J'évoquerai ici simplement la biographie de Harald à la dent bleue chez Passé composé en 2022 et la belle synthèse intitulée « Les peuples du Nord du 1er au 11e siècle » parue chez Belin en 2024. Vous participez aussi activement à la médiation de la recherche historique. Et je pense à votre collaboration avec Benjamin Briot, donc le youtubeur connu sous le nom de Nota Bene, sur un ouvrage intitulé « Vikings » et bien sûr au livre qui nous réunit ici ce soir. Ce livre, « Vikings, enquête sur les femmes des terres gelées », publié par Talendier, fait suite à un documentaire pour lequel vous avez collaboré avec le cinéaste Thomas Sirotto et le journaliste Éric Pincas. Et l'ouvrage apporte des compléments et des mises à jour au documentaire. C'est-à-dire que nous sommes dans une période d'effervescence scientifique quand on s'intéresse aux Vikings et d'importante évolution des savoirs. C'est bien ça ?
Oui. Oui, effectivement, on est sur un terrain qui va puiser dans des sources assez variées, des sources textuelles, mais aussi beaucoup d'archéologie et d'archéologie avec des techniques qui sont plus récentes, plus modernes. Donc il va y avoir à la fois les nouvelles découvertes qu'on fait, et c'est un des points de départ du livre, avec une tombe en Islande qu'on ne connaissait pas il y a encore quelques années, une dizaine d'années. Et par ailleurs, il y a aussi d'anciennes découvertes qui peuvent être réanalysées avec de la génétique ou des isotopes, enfin des choses qui vont permettre de faire parler hein, le plus possible ces corps, ces squelettes, et d'avoir des informations sur la mobilité, la circulation des personnes, les origines géographiques, les mélanges aussi ethniques qui peuvent avoir lieu. Et c'est aussi tout ça qu'on a essayé de montrer justement dans ce livre, de montrer que finalement on n'a pas une vision très figé, et que ça y est, une fois qu'on a écrit une histoire des femmes vikings à un temps donné, donc en 2025-26 ou à un autre moment, bah, rien n'est encore figé, et on pourra probablement réécrire ce livre dans 10 ans ou 15 ans ou 20 ans, je ne sais pas, en fonction de ce qu'on aura découvert et réinterprété.
Et les trouvailles archéologiques, on le comprend bien, sont absolument fondamentales dans la démarche, notamment l'archéologie funéraire. Et donc plusieurs fois au fil de l'ouvrage, vous êtes amené à expliquer à la fois ce que l'archéologie fait à l'histoire du genre, mais aussi à ce que les études du genre ont fait au regard des archéologues. Et notamment, on le voit très bien quand vous présentez le matériel donc de cette tombe islandaise, qui est le fil rouge de tout l'ouvrage. Et l'ouvrage déploie en quelque sorte l'éventail des possibles pour imaginer comment cette femme qui a vécu en Islande aux alentours de l'an 1000 a pu acquérir la position d'autorité qui était la sienne d'après sa tombe. Et ça, vous le montrez notamment à partir du matériel funéraire. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu et peut-être expliquer pour nous ces rapports entre études de genre et évolution des analyses archéologiques ?
Oui, alors c'était un des fils rouges, mais aussi un des fils un peu ténus hein, et d'équilibriste de l'ouvrage, puisque l'objectif était d'essayer de sortir de certains clichés sans verser dans d'autres, et pour cela de s'appuyer beaucoup sur l'archéologie, à laquelle on peut faire dire beaucoup de choses, et en même temps qui nous apporte finalement très peu de certitudes. Et ça fait partie des critiques que j'ai commencé à voir circuler sur ce livre et qui m'avait déjà été adressé sur les précédents, en disant, mais finalement, vous nous apportez aucune réponse claire, c'est très frustrant, parce qu'on ne sait toujours pas qui est cet inconnu enterré en Islande, et donc vous avez déroulé plein de possibilités, mais on n'a pas vraiment l'explication. Et c'est vrai que c'est un petit peu la difficulté, parce que dans cette tombe, il n'y a plus de corps, donc il y a juste l'empreinte qui a été laissée par le corps, il y a des objets qui laisse penser que ce corps était probablement un corps de femme, donc notamment des ciseaux qui servaient pour travailler la laine, une pierre pour allumer le feu et des bijoux qui s'apparentent plutôt à des bijoux féminins. Et il y a aussi la disposition de la tombe, qui est toujours très intéressante. Et là, en l'occurrence, cette tombe, elle n'était pas isolée. Il y avait quelques autres tombes qui l'entouraient. La particularité, c'est que les autres, qui étaient des tombes masculines, ont été un peu négligées, en fait, au cours des générations suivantes. On a jeté les détritus par-dessus. Enfin, on n'a pas porté une attention particulière à ces défunts. Il y a une tombe qui fait exception. Visiblement, on l'a respectée. On a continué sur plusieurs générations à y faire attention. C'est justement la tombe de cette femme. Donc, à partir de ces constats, on essaye effectivement de voir quelles sont les possibilités, quel pouvait être le rôle de cette femme, quelles pouvaient être ses origines aussi, à partir de l'analyse des objets. C'est probablement une femme qui vient de Norvège ou qui, à défaut, a encore des liens très étroits avec la Norvège. Mais bien entendu, je ne peux absolument pas lui donner un nom, un visage. Enfin, j'ai pas sa carte d'identité. Et à partir de cette tombe, on déroule un peu la pelote, hein, et on ouvre finalement des parallèles, alors plus ou moins évidents ou rapprochés, mais avec d'autres tombes, avec d'autres sources qui peuvent être des textes, et qui permettent de revenir aussi sur cette difficulté que vous évoquiez, et notamment cette question du genre. Comment est-ce qu'on peut interpréter ou pas une tombe, et notamment le genre et ou le sexe, qui sont deux choses un peu différentes, puisque le sexe, c'est la dimension biologique, hein, et le genre, c'est la construction sociale. Donc on peut enterrer une femme dans un genre masculin, et inversement, on peut enterrer un homme dans un genre féminin, c'est-à-dire un individu de sexe masculin avec des attributs féminins, et inversement. Et l'exemple le plus parlant et qui pose tous ces problèmes d'interprétation, c'est peut-être pas la tombe islandaise qu'on évoquait, c'est une tombe alors dont on a pas mal parlé, peut-être que certains d'entre vous ont entendu parler dans la salle, c'est la tombe BJ581 de Birka, la tombe dite de la guerrière de Birka. C'est une tombe, alors là pour le coup on en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est une tombe qui a été fouillée il y a longtemps. Elle a été fouillée à la fin du 19e siècle, mais on l'a reconsidérée avec des analyses récentes. Donc c'est une tombe à la fin du 19e siècle qui est découverte. Et donc lorsqu'on l'ouvre, il y a vraiment tout l'arsenal du guerrier dedans. Il n'y a pas juste une épée, un bouclier. Il y a épée, bouclier, hache, pointe de flèche, pointe de lance, chevaux sacrifiés. Enfin, c'est la totale. Même pour une tombe masculine, c'est exceptionnel. Et donc forcément, en fin du 19e siècle, on interprète ça comme une tombe masculine. Dans les années 1870, c'est absolument pas envisageable de l'interpréter autrement. Il y a bien quelques voix qui, au cours du XXe siècle, commencent à dire que les os du bassin sont bizarres, mais ça colle pas, il y a des armes, c'est un homme. On fait des tests ADN, au début du XXIe siècle, sur les ossements humains, il n'y a pas de chromosome Y. Et donc là, ça pose la question de l'interprétation de la tombe, et c'est ce qu'on a fait pour l'Islande, à partir uniquement du mobilier funéraire. Il y a des armes, donc c'est une tombe d'homme. Il y a des bijoux et des objets domestiques du quotidien, donc c'est une tombe de femme. Ça marche, on va dire, 9 fois sur 10, ou peut-être même plus, peut-être même 95 fois sur 100. Mais les quelques petites exceptions, ben, on passe à côté. Alors cette tombe de Birka, ben, elle pose beaucoup de problèmes d'interprétation. Parce que de suite, il y a eu tout un fantasme, tout un ensemble de fantasmes. Ah, on a enfin trouvé une tombe de guerrière viking. C'est effectivement une femme qui n'a pas été enterrée de façon habituelle avec les objets codés du genre féminin. Si on s'en tient aux objets, on passe à côté effectivement de la spécificité de la tombe. Après, de là en faire une guerrière. Là où c'est passionnant, c'est que ça renvoie le problème dans l'autre sens. Quand des voix comme la mienne ont commencé à dire « Oh là, attention, c'est compliqué, ne nous emballons pas », la réponse a été « Ah bah oui, forcément, il y a une épée dans une tombe d'homme, c'est un guerrier, on trouve une épée dans une tombe de femme, c'est pas une guerrière. Donc c'est pas logique. » C'est vrai. Mais moi, je pense qu'il faut pousser le raisonnement jusqu'au bout. Quand il y a une épée dans une tombe d'homme, rien ne permet d'être certain que l'homme s'en est servi, surtout que souvent, ce sont des épées d'apparat. Donc ça pose, au-delà de la question du genre, tout le problème de l'interprétation du mobilier funéraire. Les tombes, c'est super parce que c'est ce qu'on appelle des tombes habillées. Hein. Avant la conversion au christianisme, il y a beaucoup d'objets, alors dans les tombes élitaires, pas dans toutes les tombes, mais dans les tombes élitaires, il y a beaucoup d'objets, de bijoux, de vêtements. Donc c'est une fabuleuse source d'information pour l'historien et l'archéologue. Et en même temps, j'ai l'habitude de dire qu'il faut faire attention parce qu'une tombe, ça n'est pas une photographie de la vie du vivant, c'est toujours une mise en scène.
C'est-à-dire qu'on n'a pas déversé le contenu de la maison du mort dans sa tombe. On a vraiment choisi certains objets, et pas tous, certains, qui avaient une signification particulière pour faire passer un message. Et le problème, c'est que très souvent, le contenu du message nous échappe et on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on a voulu faire passer. Pourquoi cette femme est enterrée avec épée, hache, bouclier, chevaux? Ça veut dire quelque chose, mais voilà, on va pouvoir... Et là, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, on va pouvoir proposer plein d'interprétations, mais on n'a aucune certitude. Et c'est un petit peu ce qu'on essaye de montrer, hein, finalement, à travers ce livre, en faisant des petits sauts de puce, hein, en partant de cette tombe islandaise, et puis en allant un petit peu à Birka, en allant ailleurs en Suède, ou en Norvège, ou même au Danemark.
Oui, vous le dites très bien. Donc, c'est une lecture qui a frustré certains lecteurs par l'absence d'affirmation et d'interprétation définitive, et c'est exactement ce qui m'a énormément plu, et ça me semble tout à fait exemplaire de la méthode des historiens et de l'importance du doute dans l'interprétation des traces qu'ont laissées les sociétés anciennes, qu'elles soient textuelles ou matérielles. Vous le montrez bien. Et ce qui est absolument, je crois, consubstantiel de la démarche historique sérieuse, c'est ce moment où la personne qui déroule le fil de l'interprétation vous dit « là, je ne peux pas aller plus avant. Sérieusement, je ne peux pas vous garantir, donc pour parler de la tombe de Birka, que cette femme était une guerrière. » Et la tentation existe. On pourrait, en tant qu'historienne de femme, se dire « ah, une figure comme ça, guerrière, oh, que ce serait un symbole extraordinaire. » Non, il y a un moment, si on est sérieux, aussi, le travail sur le genre, c'est pas aussi s'emparer d'histoires, d'éléments du passé pour en faire des symboles, et c'est au contraire être très, très prudente.
C'est la difficulté quand on touche à la question du genre, c'est que, alors on est biaisé par les sources, c'est aussi, et notamment les textes, c'est aussi un des aspects centraux de l'ouvrage, hein, de montrer que le rôle des femmes a été largement invisibilisé, effacé par des sources qui sont des sources essentiellement écrites par des hommes, pour des hommes, et très souvent même des hommes d'église, hein, avec un regard qui est au mieux sexiste, voire misogyne, mais en même temps, toujours garder à l'esprit qu'on interprète ces textes, donc... Il y a le filtre des auteurs, mais on interprète les textes avec notre propre, ou même les tombes, avec notre propre filtre. Et le fait que cette tombe ait été réinterprétée, fait qu'on ait éprouvé le besoin de faire des tests ADN dans les années 2010 sur cette tombe, n'est pas anodin. C'est qu'on a voulu revenir sur cette question du sexe et du genre de la défunte de Birka à ce moment-là, ce qui correspond en fait au moment où émerge, où se développe vraiment le mouvement MeToo, où il y a tout un ensemble de débats autour des droits des femmes, de la parité. Et effectivement, le risque est aussi de vouloir chercher une sorte de femme émancipée qui permettrait de venir justifier les combats actuels. Vous voyez, il y en avait il y a 1000 ans, donc il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui, les femmes n'aient pas les mêmes droits que les hommes. Et là, c'est complètement anachronique, en fait. Et en même temps, c'est quand même salutaire, parce que finalement, ça permet de réinterroger des tombes, des objets, des textes, avec un nouveau questionnement, un nouveau regard. Et là, en l'occurrence, en se disant quelle pouvait être la place des femmes dans ces sociétés. Elles ont été minorées, mais il ne s'agit pas non plus de verser dans l'excès inverse. Et donc, c'est ce jeu, ce dialogue, finalement, qu'il faut opérer, en étant conscient qu'on est forcément les enfants de son temps. On ne peut pas s'abstraire des débats du moment, il faut juste rester, rester conscient qu'on est imprégné, imbibé de ça, et que quand on fait de l'étude du genre dans les années 2010, c'est pas un hasard. Mm. Et d'ailleurs, on n'est pas les seuls. Il y a un mouvement qui se développe à ce moment-là.
Au début de l'ouvrage, vous posez la question... de la circulation des femmes grâce aux données de l'ADN. Et si vous pouviez me faire un petit topo. L'ADN, je vois à peu près, on le trouve dans les dents, les os du crâne, je crois, derrière l'oreille. J'arrive à comprendre. Mais alors, les études isotopiques et les isotopes du strontium, vous les mobilisez souvent. Et donc, si j'ai bien compris, ça permet de comprendre quel était l'environnement dans lequel ont grandi les individus. Et à partir de ça, vous montrez plein de choses sur la circulation des femmes. C'est passionnant, mais j'ai besoin d'explications techniques.
Alors là, effectivement, l'historien ne peut pas travailler tout seul. Hein. Il a besoin de spécialistes, parce que même moi, je suis absolument incapable de vous expliquer vraiment dans le détail technique le fonctionnement. Mais j'ai quand même les grandes lignes. Donc effectivement, les isotopes, et en l'occurrence les isotopes du strontium, c'est des choses qu'on fixe tous au cours de notre vie et qu'on va fixer. Et c'est là que c'est super pour l'archéologue, qu'on va fixer... Alors, dans les cheveux, bon, ça, pas top pour l'archéologue, parce qu'a priori, les cheveux, ils disparaissent, mais qu'on va fixer aussi dans les dents, dans les mailles dentaires. Et ça, très souvent, les dents, c'est des choses qu'on arrive à retrouver. C'est presque plus facile que l'ADN, parce que l'ADN, souvent, si les os et l'ADN, en l'occurrence, sont en mauvais état, on peut absolument rien en faire. Et donc, à partir de l'analyse de ces isotopes du strontium, on va pouvoir établir ce que l'individu a mangé et donc essentiellement mangé ou consommé. C'est un système de spectre, c'est-à-dire que on va établir un spectre, une sorte de diagramme, et faire des rapprochements et dire en fait ça correspond au spectre de cette région. Donc c'est un individu qui, alors ça fonctionne bien sur les 20 dernières années, qui dans les 20 dernières années de sa vie a fixé des isotopes qui sont originaires de la région qui ressemble à ce spectre. Donc on peut pas dire de telle ville, c'est pas possible, hein, on peut pas préciser, mais qui est originaire, alors pas du tout, on l'a trouvé en Suède, mais il est pas du tout originaire de Suède, il a mangé des choses, il a consommé des choses qui sont plutôt originaires de l'Asie centrale ou de l'Europe de l'Ouest, voilà. Et donc ça va permettre de montrer justement les mobilités, les circulations des populations, et d'établir que les individus, là où on les a retrouvés enterrés, ils ont pas forcément vécu toute leur vie là où ils ont été, enterrés. Ça paraît être un peu une évidence, mais là on arrive à le démontrer scientifiquement. Et quand on arrive à faire des analyses ADN, ça peut venir compléter ou dire autre chose. Hein. Les analyses ADN permettent aussi de voir qu'il y a des affinités, là aussi géographiques, ethniques, assez diverses, et de montrer. Et ça c'est quand même très intéressant. Ça permet de lutter justement contre certains clichés, de montrer que tous les Vikings, alors tous les Vikings, mais aussi tous les Vikings, parce que là pour le coup ça fonctionne pour les femmes, mais ça fonctionne aussi pour les hommes, n'étaient pas des grands blonds aux yeux bleus. Hein. Les Vikings ont beaucoup voyagé, se sont beaucoup mélangés, et donc il y a aussi des bruns, des châtains, avec des yeux plus sombres, et on a établi, enfin quand je dis on, les spécialistes ont établi que la taille moyenne de la femme, c'est à peu près 1m60. Alors il y en a qui font 1m70, mais voilà, la moyenne, donc c'est pas non plus des géantes monstrueuses. 1m60, c'est à peine plus petit que moi, quoi. Donc c'est une taille qui reste... Faut pas s'imaginer que voilà, elles étaient toutes faisant 1m90.
Blondes comme les pieds.
Ouais. Alors probablement plus musclées que nous, parce qu'elles n'avaient pas la même vie et le même quotidien, mais ça c'est aussi lié, pour aller chercher de l'eau ou aider le travail des champs, où il faut pas avoir le même gabarit que nous, la petite crevette. Donc c'est ça aussi que les études récentes permettent d'apporter, et c'est des choses qu'on n'avait pas il y a quelques décennies encore. Donc c'est vraiment des apports assez récents et qui permettent parfois de ressortir des histoires très anciennes, comme la tombe de Birka, et vraiment de les relire sous un jour et sous un angle nouveau.
J'ai été très frappée par le passage où vous parlez de l'exposition des nouveau-nés, qui est attestée donc, par les sources textuelles, qui ont leur biais, bien sûr, mais vous expliquez que ça concorde avec certaines situations où justement l'étude de l'ADN montre des déséquilibres entre les hommes et les femmes. C'est le site du lac Mölmar, c'est ça, en Suède, où l'ADN indique que 70% des dépouilles masculines ont un profil génétique scandinave, alors que le rapport est inverse dans les ossements féminins. Donc, des situations où il y a un ratio homme-femme, en fait, qui est hyper déséquilibré, et où on fait venir des femmes, ce qui pose la question de leur statut, potentiellement des esclaves.
Et qui explique justement les mélanges, les métissages que j'évoquais. Oui, effectivement, donc là, c'est un site de Scandinavie continentale, mais c'est quelque chose qui a eu beaucoup cours aussi dans les peuplements de l'Atlantique Nord, et notamment du côté de l'Islande, du Groenland, où effectivement, il y a probablement beaucoup d'esclaves et beaucoup d'esclaves, j'ai envie de dire, enfin d'esclaves au féminin, qui sont venus en fait dans les colonies. Hein. Donc il y a des familles qui sont parties, il y a des femmes qui sont parties de Scandinavie, notamment de Norvège, pour aller s'établir en Islande. Hein. Donc il y a des familles entières qui sont parties, il y a même des enfants qui sont partis aussi. Mais il y a aussi des hommes qui sont partis seuls et qui ensuite se sont établis sur place avec des esclaves qui étaient radiés du côté de la mer d'Irlande, pour ne pas citer probablement un des principaux viviers à ce moment-là. Donc il y a effectivement cette question-là, et là aussi les études récentes permettent de faire ressortir, alors c'est pas systématique, c'est pas toujours, hein, on n'a pas les analyses génétiques n'ont pas réponse à tout, mais ça permet de faire ressortir des choses, et cette question de l'exposition ou même de la malnutrition, dans certains cas, alors le problème c'est que on a très peu de restes d'enfants. Parce que pour plein de raisons, ce sont des ossements qui sont plus fragiles, qui disparaissent plus facilement, parce que aussi on inhumait probablement de façon moins formelle les enfants que les adultes. Hein. Il y en avait quand même beaucoup qui mouraient, donc le rapport n'était pas le même que nous. Bref, tout ça pour dire qu'on n'a pas énormément de restes d'enfants, mais quand on en a et qu'on arrive à en tirer quelque chose, on se rend compte que globalement, là aussi, il faudrait nuancer en fonction des périodes, des régions, mais que globalement, les petites filles étaient moins bien nourries, et surtout en période difficile, en période de disette, où il va falloir éventuellement sélectionner et privilégier certains par rapport à d'autres, c'est plutôt les petits garçons qui vont être privilégiés. Et l'exposition, là aussi, bon, les données manquent, mais il semblerait que ça ait plus touché les petites filles que les petits garçons, parce qu'on n'expose pas. Donc l'exposition, c'est le fait d'abandonner un enfant. On l'expose rarement pour le plaisir. Si on l'abandonne, c'est que là aussi, la situation est particulière. Soit on est dans une période de disette, de crise, soit bien il y a trop de bouches à nourrir, sans forcément que la situation soit trop difficile. Mais on en est déjà au sixième, ou au septième, ou au huitième enfant, et c'est encore une fille. Donc, on va privilégier là aussi les petits garçons. Donc, une fois encore, c'est pas quelque chose qui est systématique, mais voilà, quand on a pu faire quelques études, c'est un petit peu ce qui ressort. Et ce qui montre aussi que finalement, la situation des femmes, qu'on a tendance des femmes scandinaves ou des femmes vikings, qu'on a tendance à idéaliser, hein, parfois on lit ou on entend que c'était presque la belle vie à cette époque-là pour les femmes, qu'elles étaient plus émancipées, qu'elles avaient plus de droits, plus de liberté, finalement, on se rend compte que quand on va vraiment creuser dans le détail, ça reste des sociétés patriarcales, quoi. Donc, c'est d'abord les hommes. Ce sont des sociétés guerrières, donc ce sont des sociétés patriarcales.
Sur une note peut-être plus légère que l'exposition des enfants, je suis désolée, j'ai tué l'ambiance. Mais ça m'a beaucoup frappée. Je m'attendais à tout, sauf ça. Je sais pas à quoi je m'attendais en ouvrant l'ouvrage, mais ça m'a...
On a essayé de couvrir un peu tous les aspects. Alors, on a sûrement oublié des trucs, mais on a vraiment essayé de couvrir un peu tous les aspects. Ouais,
mais donc, ayant moi-même des enfants, ça m'a beaucoup... ça m'a fait forte impression, vous l'avez compris, pardon. J'ai aussi beaucoup aimé le chapitre consacré aux activités textiles, qui montre une centralité économique du travail féminin, d'un savoir-faire féminin, et donc qui nécessairement devait faire l'objet d'une valorisation, à la fois pour l'économie domestique. Il fait froid dans le monde scandinave, vous avez intérêt à avoir des tissus de bonne qualité, vous le montrez très bien. Une centralité aussi dans l'économie à une échelle variable, mais donc à une diffusion extra-domestique. Et ce qui pouvait carrément amener et mettre les femmes en position d'experte, puisque certaines parties, notamment vous expliquez, c'est pour l'Islande, quand l'économie n'est pas complètement monétarisée, c'est le travail des femmes, le fruit du travail des femmes, les tissus qui servent de monnaie d'échange, ce qui les place en fait dans une position d'experte quand des transactions interviennent pour définir la valeur des choses.
Et distinguer le bon du mauvais textile. Ouais. Oui, effectivement, ça c'était vraiment un chapitre central, et c'était un peu un des cœurs pour pas dire le cœur de l'enquête qui était à l'origine donc du documentaire, hein, comme vous l'avez rappelé en introduction. Et là, Eric Pincas et Thomas Sirotto ont vraiment mené une enquête, sont allés voir des archéologues expérimentaux qui justement font des tests, hein, de tissage. Donc on fait ça de façon moderne avec des capteurs pour voir quelle est la partie du corps qui est mobilisée, les articulations. Enfin, et ça permet vraiment aussi de comprendre et de se rendre compte que c'est un travail qui est très physique.
Ah oui, le passage est génial.
Accessoirement, ouais. Et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. C'était pas des petites crevettes qui faisaient 40 kilos tout mouillé, quoi, parce que même le travail du textile, c'était vraiment quelque chose de physique. C'est quelque chose qui est central parce que, alors, l'exemple que vous évoquez pour l'Islande, on est vraiment sur la fin de la période viking. C'est quelque chose qui court encore durant tout le Moyen-Âge scandinave, hein, donc au-delà de la période viking. Mais pour la période viking, le point qui est central, c'est que, alors, il y a tout un débat. Est-ce que les femmes ont pris part aux expéditions vikings? Est-ce qu'elles étaient à bord des bateaux? Oui, non, peut-être, mais en petit nombre. Bon, bref. Mais au-delà de cela, ce qui ressort finalement de cette étude, c'est que même si elles n'étaient pas très nombreuses dans les bateaux, sans les femmes, il n'y aurait probablement pas eu de bateaux. Parce que ces bateaux, ils sont très largement mus à la voile, et que les voiles, bah, ce sont très largement les femmes qui les tissent. Donc, bon, on aurait pu continuer à avancer à la rame, hein. Le mode de propulsion est mixte sur un bateau viking, mais il n'empêche que ce sont les femmes qui ont tissé ces voiles. Donc, même sur un bateau où, j'ai envie de dire, l'équipage est strictement masculin, elles sont quand même, elles sont là, en quelque sorte, elles sont là, leur travail est dans la voile. Et effectivement, en essayant de reconstituer ce travail, on se rend compte que ce sont des kilomètres et des kilomètres de laine. J'ai plus les chiffres en tête, mais qu'il faut filer.
Donc, vous voulez, je vous les lis. le chapitre, le passage est trop bien. Pour fabriquer la toile d'une voile d'environ 120 mètres carrés, il faut d'abord 150 kg de matière première. Environ 600 jours sont ensuite nécessaires pour préparer la laine, puis encore 385 jours pour filer tout le fil. 154 km au total. Enfin, l'installation des métiers à tisser prend 48 jours et l'étape finale du tissage de la toile, 265 jours. À raison de 8 heures de travail par jour, tous les jours de la semaine, il faudrait 3 ans et demi à une personne seule pour tisser une voile. Donc, évidemment, c'est pas forcément une personne seule.
Donc, voilà, la suite du chapitre, c'était pour démontrer que il y a une véritable industrie textile autour des voiles. Bien entendu que ça n'est pas une femme qui s'est mise un beau matin devant son petit métier à tisser et qui a dit à son mari, dans 4 ans, tu pourras partir en expédition viking. Donc, ça explique aussi que construire, équiper un navire, ça coûte très cher et ça prend du temps. Il y a la voile, mais il y a aussi la coque qui demande... Voilà, c'est un investissement. Donc, on fait ça à plusieurs, on équipe le bateau à plusieurs, on tisse la voile aussi à plusieurs. Et dans les grands ports scandinaves, il y a il y a le développement d'une véritable industrie textile, et ça on l'a vu aussi avec même une différenciation des qualités de tissu. C'est des endroits où on a à la fois le tissu un peu basique, domestique, que vous évoquiez tout à l'heure, hein, j'ai envie de dire la bonne couverture de laine bien épaisse, mais bon, pas forcément très raffinée. Et inversement, c'est là aussi qu'on va faire des broderies, des tissus beaucoup plus fins, beaucoup plus légers. Ça, on arrive à le voir avec la taille, la forme des différents outils, notamment des pesons, des fusaioles, hein. On arrive à voir qu'on peut faire des tissus plus ou moins épais, plus ou moins raffinés. Donc voilà, c'est pas juste on fait de la bonne grosse toile de laine qui devient bien lourde avec de l'eau accessoirement, ouais. Aussi, mais on peut aussi faire des tissus plus travaillés. Et puis pour ce qui est des toiles, en général, on les enduit de goudron de pin, ce genre de choses, pour les étanchéifier, parce que sinon, effectivement, je sais pas si ça vous est déjà arrivé de prendre une averse avec un pull en laine, mais c'est vraiment pas sympa.
Et peut-être un mot d'explication sur les pesons et les fusaioles. Ouais. Les pesons donc servent à lester les fils.
Les métiers à tisser sont verticaux en fait à l'époque. Je pense que ouais, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Donc on n'est pas encore dans ces métiers à tisser horizontaux qu'on a plus tard. Donc c'est un métier à tisser devant lequel on va se mettre debout, alors éventuellement assise, mais bon, on a quand même une plus grande liberté de mouvement si on est debout. Alors autant vous dire que ça pèse, hein, sur les articulations des hanches et des genoux en particulier, ce que je disais tout à l'heure. Et donc effectivement, on va tirer en fait la trame vers le bas avec ces pesons, et ensuite je pense que beaucoup d'entre vous, enfin moi j'avais fait ça en tout cas étant gamine, hein, sur un carton, hein, après on fait passer le fil, donc c'est ce principe-là, mais avec 154 km de fil à faire passer pour une voile de 120 mètres carrés. Alors il y en a qui sont plus petites ou plus grandes, mais 120 mètres carrés de mémoire, c'est pour les assez gros navires, hein, donc on peut faire plus petit, mais enfin même juste 100 km de fil, c'est déjà pas mal. Hein.
Oui. Mais j'ai regardé des vidéos sur YouTube, donc parce que je comprenais pas bien le fonctionnement de la fusaïole, et donc je suis allée chercher.
Oui, alors ça c'est pour filer.
Exactement. Et donc l'apport de l'archéologie expérimentale qui est crucial et qui a livré là les données.
Ouais. Là c'est chiffrées. Très très précieux parce que ces données chiffrées, bien entendu, on peut pas les avoir sinon sans l'archéologie expérimentale. Et ça aussi, ça fait partie des apports récents qui sont super. Alors pour le textile, mais aussi pour la navigation, l'ingénierie maritime, on reconstruit à la façon des Scandinaves des bateaux, puis après on leur fait prendre la mer. Et donc on voit comment ils se comportent, on voit la stabilité, la vitesse qu'ils peuvent atteindre, le nombre de personnes qu'on peut mettre à bord. Ça, c'est des choses qu'on peut avoir. Alors le nombre de personnes, on peut éventuellement avoir des données dans quelques textes, mais sinon le reste, c'est vraiment très très précieux. Ouais.
Ouais. Et donc vous montrez que toute la Scandinavie, même l'Islande, est intégré dans de grands réseaux d'échanges, puisque les perles de verre de certaines tombes viennent de Méditerranée, ou que l'on produit sur le site suédois de Birkal, qu'on a déjà évoqué, de luxueux rubans avec des fils de soie venus d'Orient. Donc, cette intégration commerciale du monde scandinave est plus importante que ce qu'on se représente ordinairement et n'est pas seulement organisée par une économie de prédation sous la forme de raids.
Oui, alors c'est effectivement, on a souvent l'image du raid en tête. En réalité, il y a des circuits d'échanges commerciaux derrière. Alors, les deux ne sont pas complètement indépendants. Parce que le raid se nourrit et nourrit le commerce. C'est-à-dire que les pirates vikings vont aller attaquer des cibles qui produisent des richesses. Donc, il y a production de richesses, donc ça attire les convoitises. Mais une fois qu'ils ont du butin, il va falloir le réinjecter d'une façon ou d'une autre. Et donc, une partie du butin réintègre les circuits commerciaux. L'exemple le plus parlant, c'est probablement celui qui n'a pas laissé de traces. C'est le cas des esclaves. Une des principales marchandises qui était à l'origine en fait des raids, c'était probablement les esclaves. On faisait des raids pour aller voler des objets précieux, mais aussi pour aller faire des prisonniers qui ensuite étaient revendus pour faire de la main d'œuvre. Ces esclaves, ils sont capturés lors des raids et ils viennent ensuite alimenter les circuits commerciaux et notamment les circuits avec le monde méditerranéen. J'en reviens aux perles de verre, mais alors une fois encore, c'est difficile parce que les esclaves, d'un point de vue archéologique, c'est impossible à cerner. Mais on a retrouvé en Scandinavie des quantités, mais astronomiques. Hein, c'est des milliers, des dizaines de milliers de dirhams. Le dirham, c'est la monnaie d'argent du monde arabo-musulman, donc qui est battue, par exemple, dans le califat abbasside de Bagdad. Ces dirhams, ça a suscité beaucoup de questions, de débats, et il y a quand même un consensus qui se dégage depuis quelques années. Ils ont vraisemblablement servi en très grande partie à payer justement des esclaves, puisque le califat de Bagdad et l'Empire byzantin font partie des principaux demandeurs à cette époque-là. Donc effectivement, les deux sont liés et en même temps, pas complètement. Vous évoquiez Birka. À côté de Birka, il y a un site qui est plus ancien. Qui est même plus ancien que le début de l'époque viking, et sur lequel on a retrouvé un petit Bouddha qui provient probablement des environs du Sri Lanka. Donc on est du côté de Stockholm, sur les bords, sur le lac Mälar, du côté de Stockholm, un petit Bouddha qui provient probablement du Sri Lanka et qui a dû arriver là vers le 6e siècle. 6e, 7e au plus tard. Donc on est avant la période viking. Et on est, alors c'est pas forcément un voyage direct. Il y a probablement eu des étapes, mais il n'empêche que d'une façon ou d'une autre, et peut-être même de façon indirecte, mais il y a des liens, il y a des connexions avec le monde oriental. Et effectivement, à Birka, on a retrouvé des collections de soie, alors soie byzantine, soie qui viennent plus d'Orient, qui sont assez impressionnantes. On en a retrouvé en Norvège aussi. Il y a une tombe norvégienne du fjord d'Oslo, qui est une tombe de femme, justement, dans laquelle on a retrouvé une centaine de bandelettes assez fines de soie qu'on pense destinées à être cousues en fait pour décorer des vêtements. Et là aussi, c'est de la soie qui vient d'Orient. D'accord. Donc il y a des échanges sur, sur de très longues distances.
Mais donc, c'est quand même accroché à la question des raids, notamment par le biais de la fourniture d'esclaves.
Il y a quand même, il y a quand même des liens, oui.
Élément de contexte peut-être utile, la société islamique, la société byzantine, chrétienne sont des sociétés esclavagistes, mais qui défendent d'esclavagiser des coreligionnaires. D'où la nécessité de s'approvisionner en esclaves à l'extérieur. Oui. Et la connexion avec le monde scandinave.
Ce qui explique que ça commence à poser pas mal de problèmes et qu'en fait, cette pratique décline assez rapidement à partir du moment où les Scandinaves se convertissent aussi au christianisme. Et bon, là, ça devient un petit peu plus compliqué de continuer à pratiquer l'esclavage. Mais durant toute la période viking, en gros, jusqu'à la fin du 10e, début du 11e siècle, il n'y a pas trop de soucis. On a la même chose avec les Carolingiens. Charlemagne légifère contre l'esclavage, enfin contre l'esclavage des chrétiens. Mais il y a encore un gros marché aux esclaves du côté de Verdun. Donc on est aux marges, mais on est quand même dans l'Empire. On n'est pas très à l'aise avec le sujet. D'ailleurs, nous, on n'est pas très bien renseignés parce que les auteurs chrétiens sont pas très à l'aise avec le sujet. Donc, ils évitent de trop l'évoquer. Donc, c'est pas très pratique, du coup, derrière pour l'historien. Mais voilà, il y avait quand même encore des pratiques. Alors, bon, il y a esclave et il y a esclave. La frontière, qu'est-ce qu'on appelle esclave? On n'est plus forcément dans la définition de l'Antiquité de l'esclave. Il y a des esclaves, et ça, on le sait pour le monde scandinave, il y a des esclaves qui ont une valeur importante. Ils ont un savoir-faire, sont des artisans, des forgerons, par exemple. Et donc, on va bien se garder de le battre à mort, parce que c'est une petite fortune qui va partir en fumée, en même temps que l'esclave. Donc, il y a des degrés dans la liberté qui peuvent être... Il y a des esclaves qui deviennent intendants des domaines. Donc, on leur fait confiance... On leur confie les clés de la maison, donc faut pas, voilà, là aussi des situations très contrastées.
Et donc je suppose qu'on n'est pas vraiment capable d'évaluer un ratio homme-femme dans le trafic d'esclaves.
Non, on n'a aucun chiffre en fait, même pour l'esclavage. Ouais. On suppose, et surtout quand on voit la taille de certains domaines ruraux, notamment au Danemark où il y a eu des fouilles, quand on voit la taille de certains domaines, on se dit que c'est pas possible de travailler sans avoir une main-d'œuvre servile. Enfin, ou alors on a rassemblé 20 familles au même endroit qui travaillent sur le même domaine. Mais voilà, c'est des preuves indirectes comme ça qui permettent de dire, ou les fameux dirhams que j'évoquais tout à l'heure, qui avaient probablement une très importante. Présence servile, y compris en Scandinavie, mais de là à avoir des chiffres ou même des ratios, c'est impossible.
D'accord, merci.
Ça serait trop beau.
Et le dernier point sur lequel j'ai trouvé vraiment l'ouvrage très très éclairant et stimulant, c'est la fin qui touche au rôle spirituel des femmes. À la fois dans le cadre du polythéisme traditionnel et dans le cadre ensuite de la christianisation et donc dans ce travail de déploiement des possibles pour une femme, des sphères d'activité qu'elle pouvait investir. J'ai vraiment lu avec grand intérêt ces pages-là. Et donc, si vous pouviez présenter cette figure fascinante, alors je ne sais pas prononcer, les vulvas.
Oui, la vulva.
Vulva.
Donc là, effectivement, on est dans la période pré-chrétienne, donc avant la conversion. Donc, c'est un personnage qui est strictement féminin. Donc, pour le coup, il nous intéressait particulièrement pour notre ouvrage. Alors qu'on ne traduit pas trop. Parce que vulva, c'est le mot norrois, donc c'est le mot qu'on trouve dans les sources. parce qu'il est difficile à traduire. Moi, quand je le traduis, en général, je le traduis par prophétesse, parce qu'en fait, magicienne, c'est pas tout à fait ça. Enfin, le rapport à la magicienne, on a l'impression que voilà, on va faire des tours de magie. Enfin, ça prend une connotation particulière dans nos sociétés. C'est quelqu'un qui a la capacité d'entrer en contact, en général lors d'une transe, avec les divinités du destin et donc de prédire l'avenir. C'est pour ça que je trouve que prophétesse, finalement, ça marche pas trop mal. C'est donc, je le disais, un personnage qui est strictement féminin, qu'on connaît à la fois par les textes. Elle apparaît dans les sagas. Alors, la difficulté des sagas, je ne l'ai pas encore trop mentionné, mais c'est que c'est un matériau qui est qui est compliqué à utiliser pour l'historien, parce que ce sont des textes qui sont rédigés majoritairement au XIIIe et XIVe siècle. Donc, pour une période qui, la période viking, couvre essentiellement les 9e, 10e et début du 11e siècle. Donc, on a 2, 3, 4 siècles de décalage. Avec une mémoire, c'est un peu le principe du téléphone arabe, des événements qui a même été altéré, mais avec quand même une transmission orale. C'est l'origine même du mot saga. Donc on a des figures de vulva qui apparaissent dans des sagas, et on a quand même des traces archéologiques. Donc on arrive là à faire un petit peu concorder les deux, et notamment, j'en reviens à l'archéologie funéraire, on a des tombes avec... À nouveau, reprenez toutes les précautions et toutes les pincettes et tous les gants que j'ai évoqués tout à l'heure, mais des tombes qu'on interprète comme des tombes de vulva. Vous allez me dire, mais comment on interprète une tombe, comment on sait que c'est une tombe de vulva? Parce qu'il y a un certain nombre d'objets qui, en général, sont troublants et ne collent pas avec des tombes habituelles. Des objets d'origine exotique, des objets qui renvoient peut-être à des rituels un petit peu particuliers. Et très souvent, le symbole des fonctions de la vulva, qui est le bâton de la vulva, qui alors peut prendre des dimensions variées, était probablement dans des matériaux variés, mais on a retrouvé ceux qui étaient en métal, forcément, il y en avait probablement en bois, mais qui ont pourri, et qui a la caractéristique de se terminer en forme un petit peu de fuseau ou de quenouille. Et là, c'est très intéressant parce qu'on rejoint le rôle des femmes dans les activités textiles. Alors, pourquoi avoir choisi ce symbole? Parce que ça permet notamment d'entrer en contact avec les nornes. Les nornes, ce sont les divinités du destin qui filent, en fait, la toile des destinées. Donc, ce sont des personnages qui sont associés, encore une fois, ce sont des personnages féminins, qui sont associés à des activités féminines, filées et tissées. Et donc, il y a quelques-unes de ces tombes qui ont été retrouvées, et qu'on pense être donc des tombes de vulva, donc des personnages un peu marginaux, des personnages qu'on a du mal à cerner quand même, parce qu'ils sont visiblement craints, respectés. C'est quand même pas mal de pouvoir prédire l'avenir, c'est pas à la portée de tout le monde, qui probablement se faisaient payer très cher pour faire ça, et en même temps des personnages qui restent en marge, qui sont pas attachés à une communauté, qui ont plus vraiment de famille. Et j'en reviens à l'Islande et à l'enquête qui est au cœur du livre. On croise peut-être une tombe, je dis peut-être parce que là il nous manque le bâton, mais même pas une tombe d'ailleurs, les restes d'une vulva, les restes d'une femme en fait qui s'est abritée dans une infractuosité, donc sur un plateau islandais, au milieu de nulle part. Il n'y a rien, à part un torrent qui dévale, mais elle est quasiment à mi-chemin entre deux villages vikings importants de cette période. Et donc, on l'a retrouvée avec notamment énormément de perles. Et donc, on suppose que c'était peut-être une vulva qui, en fait, circulait, mais donc circulait toute seule et qui s'est trouvée prise pendant une tempête, en fait, et qui s'est réfugiée là, circulait toute seule entre ces deux villages. Elle arrivait de l'un où elle venait de prédire l'avenir pour aller dans un autre. Mais voilà, là aussi on n'a pas de nom, on n'a pas de visage, enfin, on a quelques noms dans les sagas, mais ça reste des personnages qui sont à mi-chemin entre l'histoire et la légende, mais qui en même temps ont quand même une existence visiblement, et en fait ça renvoie aussi au, c'est ce que je disais par rapport au terme de magicienne, ça renvoie aussi au rapport à la magie ou au surnaturel qui n'est pas forcément le même pour nous et pour les vikings, pour les scandinaves de cette époque. Et donc, ce qui pour nous relève de la légende pouvait relever pour eux de quelque chose de parfaitement admis. Se faire prédire l'avenir par une vulva, pas de problème. Et ça disparaît avec l'arrivée du christianisme.
Ouais. C'est un rôle purement divinatoire ou est-ce qu'elles ont un rôle liturgique? Est-ce qu'on sait ces choses?
Alors, tout ce qui est réalisation des rites cultuels, là, ça va être différent. Donc, ce sont des prophétesses qui peuvent éventuellement avoir des fonctions liturgiques, mais qui ne sont pas vraiment des prêtresses pour autant. Dans les temps pré-chrétiens, on est dans un système où il n'y a pas en fait de monopole par un personnel du type clergé, hein, des prêtres ou des évêques, ça arrive avec le christianisme. Les rites sont réalisés en général par, alors à une échelle familiale, le père de famille, le chef de famille, à une échelle un petit peu plus locale, le chef de village ou le chef local, et on a une sorte d'empilement comme ça d'échelle. Ça peut être réalisé, alors en priorité c'est plutôt par les hommes, mais on a des textes où on voit qu'en l'absence de l'homme, la maîtresse de maison peut quand même réaliser le sacrifice aux divinités protectrices du foyer ou ce genre de choses. Donc voilà, c'est un fonctionnement qui est assez différent finalement de ce qu'il y a avec le christianisme, où là par contre tout est repris en main par le clergé, il n'est plus question que le chef ou le roi local s'adonne à des sacrifices comme c'était dans les temps où à des rites cultuels comme c'était dans les temps païens.
Donc la christianisation peut peut-être globalement être interprétée comme un changement qui réduit la palette des rôles que peut endosser une femme. Ou c'est trop simpliste?
Oui et non. Alors, qui réduit la palette, oui, c'est vrai qu'il ne peut plus y avoir de vulva. En même temps, c'était pas non plus la fonction number one. Hein, voilà, c'est toute petite fille scandinave n'avait pas vocation à devenir une vulva, donc ça restait quand même quelque chose effectivement de marginal, même si là aussi on peut pas chiffrer, ouais. Mais c'est visiblement quand même quelque chose qui reste exceptionnel. Donc oui, de ce côté-là, elles n'ont plus accès à cela. Je pense que les chefs, les petits rois locaux ont plus perdu hein, au change finalement là que les femmes. Inversement, elles ne sont pas entièrement, enfin, elles n'ont pas fait que perdre des possibilités. Elles sont aussi gagnantes sur d'autres tableaux. Quelque chose qu'on n'a pas encore évoqué, et ça peut être éventuellement l'occasion de le dire, mais c'est qu'on est dans des sociétés qui sont polygames. Polygame, la polygamie fonctionnant essentiellement dans un sens, je vous laisse deviner lequel, même s'il n'y a aucun texte de loi où il est écrit clairement qu'une femme ne peut pas avoir plusieurs époux. Mais bizarrement, quand on envisage dans les textes de loi les cas de polygamie, il est toujours question de l'homme qui a plusieurs femmes. Ça peut contribuer à affaiblir finalement l'autorité de la maîtresse de maison, hein, qui doit supporter différentes concubines à ses côtés, et qui doit d'autant plus les supporter que les enfants, et notamment les garçons nés de concubines, peuvent prétendre à l'héritage. On a des exemples célèbres. Hein. Alors, dans le monde scandinave, dans un monde élargi, quand je dis élargi, je pense à la Normandie, le dénommé Guillaume le Conquérant. Avant de devenir le Conquérant, il était surnommé Guillaume le Bâtard. Pourquoi le Bâtard ? Parce qu'il n'est pas né de l'union légitime de son père. Et ça n'a pas du tout posé de problème pour qu'il hérite, parce que c'est encore un mariage à la danoise, hein, comme on dit à l'époque. Donc à partir du moment où le christianisme s'impose, autant vous dire qu'il n'est plus question d'avoir 3, 4, 5, 6 concubines à la maison. Il y a une épouse légitime. Et qui n'y perd pas en fait au passage, hein, qui voit son rôle revalorisé, elle est désormais la seule à pouvoir engendrer les héritiers, donc elle a un statut qui peut gagner dans certaines situations, hein, parce qu'il n'y avait pas non plus une palanquée de concubines dans tous les foyers. Autre exemple, l'exposition des enfants qu'on évoquait tout à l'heure, c'était une pratique qui était quand même, bon, on n'a pas de texte, mais là, il y a des études anthropologiques, et c'est une pratique qui est plutôt le fait des pères. Et je pense que quand on a eu des enfants en tant que mère, c'est assez facile, vous l'évoquiez tout à l'heure, à comprendre. On voit assez mal une mère aller abandonner son enfant. C'est pas possible, c'est un déchirement. Et donc, c'est quelque chose qui devait déchirer beaucoup plus les femmes que les hommes. Le christianisme met fin, là aussi progressivement, mais à cette pratique de l'exposition des enfants. Donc là aussi, on dit souvent que le christianisme a beaucoup fait perdre aux femmes, enfin l'arrivée du christianisme a beaucoup fait perdre aux femmes scandinaves. Oui, elles ont perdu d'un côté, mais Je ne sais pas si dans la balance générale, voilà, le bilan est totalement négatif. Enfin, le bilan n'est pas totalement négatif, ça c'est sûr.
Et donc, on voit apparaître dans votre ouvrage un dossier que j'ai trouvé extraordinaire, celui d'Estrid. Une femme donc, qui fait graver des pierres, dont on a retrouvé la sépulture et dont on identifie les déplacements parce qu'elle a laissé une trace écrite au monastère de Reichenau, donc sur le lac de Constance en Allemagne, dans le cadre d'un probable pèlerinage. Ouais. Et moi qui suis arrivée devant votre ouvrage en ayant l'idée que sur le monde scandinave de cette époque, on n'a que des données éparses, là, voir comment, en faisant dialoguer donc une documentation monastique allemande et les découvertes de l'archéologie, les pierres, l'archéologie funéraire et tout, on arrivait à construire comme ça un dossier documentaire aussi riche. J'étais soufflée, j'ai trouvé ça trop bien, je veux le faire en cours maintenant.
Alors c'est vraiment le seul exemple qu'on ait de concordance comme ça, d'une donnée archéologique, épigraphique et textuelle. Le point de départ, c'est effectivement les pierres runiques. Donc, c'est une femme qui a fait graver plusieurs pierres runiques. Donc, on est toujours dans le même secteur, hein, du côté de Stockholm, pas très très loin, hein, donc en Suède, qui a fait graver des pierres runiques à la mémoire de ses époux et de ses fils, soit dit en passant, jamais de ses filles. Donc, une femme qui fait graver des pierres, donc ça c'est bien, mais en même temps c'est à la mémoire des hommes. Donc, elle fait graver des pierres, et donc c'est ce qui nous permet d'être certain que la mention sur le livre de confraternité de Reichenau est bien la sienne, parce que vous allez me dire, bah, c'est un nom Estrid sur un livre de prière noyé parmi des milliers de noms, comment on peut être sûr que c'est la Estrid qui a vécu en Suède? Oui, sauf qu'il n'y a pas que son nom, il y a écrit Austin, Estrid, Sven, il y a les trois noms. Il se trouve que le premier époux d'Estrid s'appelait Austin et qu'un de leurs fils s'appelle Sven. Et dans la tombe qu'on a retrouvée dans les années 90, là aussi, on ne peut pas être sûr à 100% que c'est la tombe d'Estrid, mais on a trouvé une tombe, a priori féminine, qui date à peu près de la même période que les pierres runiques, et dans laquelle il n'y avait pas énormément d'objets, mais parmi les objets, il y avait un petit coffret, une petite châsse, avec deux pièces de monnaie, et l'une de ces pièces de monnaie a été frappée à Bâle, donc dans la même région, au début du XIe siècle. Donc il y a vraiment une concordance, une coïncidence, un faisceau d'indices, hein, une fois encore, c'est vraiment rarissime, et qui nous montre plein de choses, en fait, qui nous montre qu'une femme du début du XIe siècle pouvait... Alors, on n'est pas certain qu'elle ait elle-même voyagé, parce qu'en fait, son époux, qui lui a voyagé, a pu inscrire son nom.
Oui.
Parce qu'un livre de confraternité, c'est pour que les moines de la communauté prient pour le salut des personnes, qui en général ont fait un petit don au passage quand même, hein, c'est pas gratuit. Mais donc il est possible que Austin soit passé et donné suffisamment pour qu'on inscrive son nom, celui de sa femme et celui de son fils, y compris en leur mémoire. Mais peut-être que Estrid l'a suivi aussi. Et puis c'est une femme, ça c'est l'autre point qui est très intéressant, qui est une chrétienne et qui est très fière de l'être, qui ne le cache pas, puisque sur les pierres uniques qu'elle a fait graver, donc en inscription runique, hein, on est vraiment dans la tradition scandinave des temps pré-chrétiens, pas de problème, mais en plein milieu de la pierre, il y a une croix chrétienne. Ça, sur quasiment toutes les pierres qu'elle a fait, ou peut-être même toutes, je ne sais plus, qu'elle a fait graver. Donc, elle rappelle à tous qu'elle est chrétienne, que sa famille est chrétienne, et qu'elle est fière de l'être. Ce n'est pas quelque chose qu'on cherche à cacher. Et c'est intéressant parce que ça nous montre aussi le rôle des femmes. On évoquait les vulvas tout à l'heure, mais ça nous montre aussi le rôle des femmes dans la diffusion de cette nouvelle religion en Scandinavie. Là non plus, c'est pas quelque chose qui est spécifique en fait au monde scandinave, hein. C'est quelque chose qu'on a eu aussi quelques siècles auparavant en Occident, hein. Il y a la fameuse figure de Clotilde aux côtés de Clovis, mais on sait que les femmes ont joué un rôle dans la diffusion du christianisme au 4e, 5e siècle chez nous, et c'est la même chose en Scandinavie à la fin du 10e et au début du 11e siècle, ce qui montre une fois encore qu'elles n'ont probablement pas perçu cette nouvelle religion comme quelque chose qui allait complètement les déposséder de tous leurs droits et de toutes leurs prérogatives. Sinon, elles ne se seraient peut-être pas prêtées au jeu d'aussi bon gré. Si les missionnaires ont ciblé en priorité les femmes, c'était plutôt malin, hein, c'est parce que ce sont celles qui transmettent les valeurs et les croyances au sein de la famille. Donc, pour être sûr de convertir une population, il faut plutôt cibler les générations à venir que les générations passées. Si le vieux schnock, il veut pas se convertir de toute façon, dans 5 ans, il est plus là, c'est pas grave. En revanche, il faut convertir les jeunes et les enfants. Et donc, il faut passer par les femmes.
Et parmi toute cette documentation, tout ce matériel archéologique, est-ce qu'il y a un dossier, une pièce, un site qui est particulièrement cher à votre cœur, qui représente pour vous, en tant qu'historienne, un attachement
Alors, moi, j'aime beaucoup le dossier d'Estrid aussi.
Ouais, le dossier d'Estrid.
J'aime beaucoup le dossier d'Estrid parce qu'effectivement, il y a à la fois cette coïncidence qui est énorme et en même temps tout ce que ça nous dit en fait, tout ce que ça nous montre du rôle de la femme, je l'ai pas redit, mais les pièces de monnaie, ça aussi rappelle probablement le rôle de cette femme dans cette région particulière qui est une région très ouverte sur l'extérieur, dans probablement les échanges commerciaux, donc enfin quelqu'un qui avait aussi du pouvoir au moins économique hein, au sein du foyer. Donc, moi j'aime beaucoup ce dossier. Après les dossiers islandais, je les connaissais moins en fait en réalité avant de découvrir l'enquête et de suivre Eric et Thomas dans l'aventure. Mais c'est vrai que le site islandais de Seyðis Fjörður, qui est le point de départ de l'enquête, est un site qui est chouette aussi, où on a continué à retrouver des choses dans les années qui ont suivi. On a retrouvé notamment un petit animal qui est probablement un jouet, qui montre probablement qu'il y a eu aussi des enfants sur place. Donc il y a ce site islandais qui est moins connu, il est intéressant aussi. Bon, par contre, BJ581 à Birka, je commence à en avoir bien soupé. Mais ouais.
Femme guerrière.
Mais s'il y a des questions dessus, j'y réponds quand même, il n'y a pas de souci.
Et une dernière question pour clore cet entretien. En tant qu'historienne qui a l'habitude de travailler avec l'archéologie, vu qu'on travaille dans un cadre financier qui est hyper contraint, si vous deviez allouer de l'argent, est-ce que vous iriez plutôt vers des équipes qui travaillent sur les collections, le matériel archéologique qu'on a déjà pour faire ces tests ADN, ces tests isotopiques, pour prendre ce qu'on a déjà et y atteler les nouvelles technologies, ou alors est-ce que vous pensez que c'est d'un meilleur rendement scientifique, intellectuel, au contraire de faire de la prospection, vous savez, avec les lidars, ces systèmes de radars qui permettent de façon non invasive de chercher de nouveaux sites et aller vers l'extension du corpus de sites disponibles?
Alors, c'est pas facile de répondre parce qu'en fait, l'expérience de ces dernières années, décennies, en fait, de ces deux dernières décennies, montre qu'on a beaucoup à apprendre des deux, finalement. Mais peut-être, et c'est ce que font les Scandinaves actuellement, d'ailleurs, peut-être que le paquet sur plutôt, effectivement, essayer d'avoir une vue un petit peu plus générale avec de la prospection, du lidar... C'est ce que je ferais en priorité, mais c'est peut-être biaisé une fois encore parce que c'est ce que de toute façon font les Scandinaves. C'est vrai que les collections, on a un petit peu parlé de Birka. Birka, c'est un site exceptionnel. Il y a à peu près 3000 tombes sur le site et il y en a un peu plus d'un tiers qui ont été fouillées à la fin du 19e siècle, dont BJ 580, mais il y en a un millier en fait qui ont été un gros millier qui a été fouillé à la fin du 19e siècle. Tout a été mis quasiment dans des boîtes à chaussures, hein. Enfin, je caricature, mais ça a été bien fouillé et bien inventorié quand même, hein. L'archéologue de la fin du 19e siècle a fait un travail super propre. Il a tout redessiné sur papier millimétré, il a tout marqué. Donc, mais bon, avec les techniques du 19e, et tout ça dort en grande partie dans les collections du musée de Stockholm. Donc il y a probablement beaucoup de choses à faire à partir de ça aussi. Et bon, ça c'est l'exemple le plus parlant. Mais c'est vrai que on le voit, et notamment effectivement avec le lidar, il y a quand même des choses qui sortent ou qui ne sortent pas justement, ou qui permettent de fouiller de façon plus stratégique, qui sont quand même très très intéressantes. On a trouvé comme ça des tombes à bateaux qu'on ne soupçonnait pas, des sites. Donc le dilemme est un peu cornélien. Je pense qu'on travaille pas aux mêmes échelles. Donc il y a ça, et après il y a aussi la question de ce qui va être possible, hein. C'est ce que je disais tout à l'heure à partir de l'ADN, encore faut-il que les ossements soient encore en suffisamment bon état pour pouvoir prélever suffisamment d'ADN et pour pouvoir en faire quelque chose. Il y a une tombe que j'ai pas trop évoquée, que j'aime bien aussi, qu'on n'a pas trop évoquée dans le livre parce que le musée, en l'occurrence, est actuellement fermé, donc ils n'ont pas pu y aller pour l'enquête, pour le documentaire, donc on l'a pas trop réintégrée. C'est la tombe d'Osberg. Donc, il y a une tombe à bateau du 9e siècle, donc en Norvège, dans le fjord d'Oslo, et dans laquelle, c'est une tombe féminine, dans laquelle on a retrouvé les restes de deux femmes. Une femme assez âgée, autour de 70 ans, et une autre un petit peu plus, ce qui pour l'époque est pas mal quand même, et une autre un petit peu plus jeune, probablement autour de la cinquantaine. Et là, c'est l'exemple type. On a essayé de faire des analyses ADN, mais l'ADN n'est pas en suffisamment bon état. On n'arrive pas à voir s'il y a un lien de parenté entre ces deux femmes. Alors, une fois encore, je le disais tout à l'heure, l'ADN n'a pas réponse à tout, de toute façon. Oui. Même s'il nous disait qu'il n'y a pas de lien de parenté biologique, la parenté au Moyen-Âge, c'est quelque chose de beaucoup plus large que notre conception de la parenté. Donc, elles avaient peut-être un lien très étroit sans que ça soit visible dans le sang et dans l'ADN. Donc, voilà. Tout ça aussi pour nuancer un peu. Hein, c'est vrai que l'ADN et les isotopes, c'est formidable. Mmh. Mais ça reste des outils. Il faut poser les bonnes questions. Et de toute façon, ça n'apporte pas toujours de réponses satisfaisantes.
Très bien. Je vous remercie beaucoup, Lucie Malbos, pour cet entretien.